C'est midi, j'ai le temps.
À Boulevard 102.1.
Exactement midi, une minute. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 102.1. C'est l'émission N'en jase, votre émission d'actualité du midi. Même si on est vendredi, Pascal Sévin, ça bouge.
Ça bouge.
Ça bouge énormément dans l'actualité. Ça a commencé ce matin, là, aux alentours de 10h, alors que Donald Trump a dit « C'est ouvert, le détroit d'Hormuz ».
On attendait confirmation mondiale, parce que des fois, Donald Trump va dire ça, puis c'est pas totalement ça.
Mais là, l'Iran a confirmé, donc c'est ouvert. Alors, dans quelques instants, on va parler justement avec un ex-diplomate canadien au Liban, donc bien placé pour connaître le conflit, François Larochelle. Ça s'en vient dans quelques minutes. Ça bouge aussi à Ottawa parce que notre nouvelle première ministre, Christine Fréchette, a rencontré Mark Carney.
Exactement. Donc, même avant de rencontrer son homologue, elle est montée un peu aux barricades, on va le dire comme ça. Elle a mis son pied à terre.
Vraiment.
Hein. Elle voulait absolument défendre l'utilisation de la disposition de la dérogation. Et Ottawa a l'intention de baliser ça, puis ça fait pas son affaire.
Non, ça fait pas son affaire. Donc, on va parler ça dans la deuxième heure avec Étienne-Alexandre Beauregard, là, ancien rédacteur des discours de François Legault, connaît très bien la CAQ. Vous l'avez entendu à notre émission spéciale en direct du Congrès dimanche. Vous l'entendez régulièrement sur nos ondes, donc on va parler de ceci avec lui. Ça brasse en économie. Julie White va être avec nous, PDG de Manufacturier Exportateur du Québec aux alentours de 13h en studio. Mark Carney serait trop opaque. Il parlerait pas aux provinces. Là. Il avait fait ça là, au début. Là.
Ouais.
Mais là, il gérerait les tarifs par lui-même. Ça fait pas l'affaire du Québec.
Puis rappelle-toi, Mark Carney avait dit « Faites votre liste d'épicerie. Si vous contribuez à être des éléments positifs et non perturbateurs pour le pays, je vais réaliser vos projets. »
C'est ça.
Puis c'était une garantie. Puis là, on se rend compte que finalement, ça va pas aussi vite et aussi bien qu'on le pensait. Est-ce que tu es surpris?
Pas vraiment.
C'est difficile.
Ce qu'il avait promis, c'était difficile. Il vient d'aller chercher sa majorité. Puis là, ben il a l'air avancé cavalier seul. On va parler de ça avec Julie White. Et Sylvain Junot va être en studio avec nous aux alentours de 12h30. C'est le maire de Saint-Augustin-de-Desmaures. Il a tenu à embarquer dans le débat autour de nos infrastructures qui sont désuètes, l'argent qu'il faut mettre pour réparer nos infrastructures. On n'aura pas le choix d'y poser la question à Pascal pour quel parti politique provincial il s'en va. Là, il ne peut pas faire une sortie comme ça pour le fun. Hein?
Ben, c'est juste parce qu'on trouve ça étrange. Il prend beaucoup de place dans l'actualité. Puis c'est pas une critique, là.
Mais non.
C'est juste que...
C'est ça.
Mais il vient de se faire élire. Il y a beaucoup de choses là-dedans.
Ah ouais,
on vous attend.
Midi 30, on parle avec Sylvain Junot. Mais avant de parler avec François Larochelle, ex-diplomate au Liban pour le gouvernement canadien, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité, Pascal?
Bon, on a fait des courts résumés hein, dans cette...
dans cette intro-là. Hein? Je suis parti en actualité. Moi, j'ai fait du Marceau.
Tu parlais, puis j'étais comme, je vais faire mes nouvelles à travers tes déclarations. Mais effectivement, je pense que la nouvelle de la journée, qui est très loin, mais nous concerne tous, c'est que le détroit d'Hormuz est totalement ouvert. Ça, c'est grâce à la trêve au Liban. Et c'est ça que l'Iran a déclaré. Parce que même s'il y avait des négociations avec les États-Unis, on gardait le détroit d'Hormuz fermé, qui est le canal par excellence pour la commercialisation de bien des choses, dont le passage du pétrole. Puis on trouvait que le Liban était beaucoup trop sacrifié encore dans cette guerre-là, dans ce conflit-là, pour donner accès à ceux qui veulent passer au détroit d'Hormuz. Là, on a annoncé que c'était totalement ouvert. Il n'y a pas d'anicroche jusqu'à maintenant. Et ça va le demeurer jusqu'au reste de la trêve négociée avec Washington, donc jusqu'au 22 avril. Mais on surveille ça, assurément. Donald Trump est bien heureux. Je pense que si on voit une petite accalmie au niveau de l'essence aussi, du prix de l'essence, là, on va être content.
Ça va y faire plaisir aussi à Donald Trump qui a des difficultés avec la classe moyenne
ben
dans son pays.
L'autre nouvelle, on l'a effleuré aussi, c'est Mme Fréchette, donc Christine Fréchette, première ministre du Québec, qui donnait le ton à Mark Carney parce qu'elle a décidé qu'elle mettait son pied à terre avec le premier ministre canadien. C'était leur première rencontre. Il y a peu de choses encore qui en sont découlées, mais quand même, cette rencontre-là avait lieu ce matin. On voit qu'il y aura collaboration, mais sans léguer absolument tout ce qu'on souhaite mettre de l'avant, tomber aux oubliettes. Fait que ça, là, le Québec prend sa place, c'est sûr, avec le ton de Mme Fréchette. Et c'est surtout dans le dossier dont je vous ai évoqué, là, la disposition de la dérogation. Ça veut dire que ça donne un petit peu plus de pouvoir aux provinces. Et C'est un mémoire qui avait été déposé par le barreau du Québec devant la Cour suprême dans le dossier de la loi 21 et ça a été utilisé 10 fois au pays depuis 2018. C'est 6 fois par le gouvernement de François Legault. Fait que la CAQ est habituée de l'utiliser. Je pense que c'est un outil politique pour eux qui est très important. Et je pense pas que c'est la chose que Mark Carney préfère le plus aussi dans le contexte où il doit sortir son pays du trouble dans plein de temps.
C'est clair.
Il y a un article qui est un peu foudroyant dans le Journal de Québec en ce moment aussi et c'est celui d'un accident à Longueuil, c'est quelqu'un qui a été catégorisé comme un des pires chauffeurs du Québec. Il s'est tué. Il roulait, on dit, en fou, dans la neige, sans pneus d'hiver. C'est un véhicule qui est allé foncer dans un muret de béton. Les images sont spectaculaires et pas pour les bonnes raisons. Ça a donné aucune chance à Kesley François la nuit du 4 février 2025. Il y avait des policiers qui patrouillaient à proximité, puis il est allé à vive allure au volant d'une Hyundai Genesis, là, pas une voiture qui peut pousser autant non plus. Donc, il a perdu le contrôle de son véhicule et on parle d'une imprudence fatale. C'est un accident quand même qui avait donné des frissons et Kesley François là, cumulait les effets de période d'interdiction de conduire aussi là, pendant au moins 15 ans.
Bravo champion. C'est ce qu'on lui dit?
Pour ça qu'on l'a catégorisé notre dépêche.
C'est ça, exactement. Le détroit d'Ormuz est réouvert depuis ce matin, confirmé par l'administration Trump et également par l'Iran. Et pour en parler avec nous, qui de mieux que François Larochelle, ex-diplomate au Liban pour le gouvernement canadien. Monsieur Larochelle, merci beaucoup pour votre disponibilité à l'émission On en jase.
Ben, merci de m'inviter.
Monsieur Larochelle, est-ce qu'on doit penser que le détroit d'Ormuz va être réouvert pour une bonne période de temps, malgré le fait qu'Israël demeure toujours nébuleux dans des cessez-le-feu, comme on l'a vu dans le conflit avec la bande de Gaza, où on n'hésite pas justement à bombarder malgré des cessez-le-feu?
Bon, pour le détroit d'Ormuz, il y a des nuances. Les Iraniens ont annoncé là, que le détroit était ouvert, mais finalement, il semblerait que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils permettraient aux bateaux d'effectivement de passer à travers, de passer le détroit d'Ormuz, mais toujours en suivant la côte iranienne, ce qui évidemment met les bateaux commerciaux à la merci d'attaques iraniennes. Et d'autre part aussi, les Américains, eux, continuent leur blocus qui vise à empêcher les bateaux de partir ou de se rendre dans des ports iraniens. Ce qui fait qu'en pratique, je ne voudrais pas faire de jeu de mots, là, mais avant qu'on assiste à un boulevard de trafic maritime le long de la côte iranienne et contournant le détroit d'Ormuz, on n'en est pas là encore parce que les armateurs sont encore très prudents, parce que tout ça est encore assez vague, là, quelles sont exactement les conditions. Et les assureurs aussi qui sont impliqués dans les assurances des bateaux, là, aussi hésitent. Donc, c'est pas réglé encore. Il va peut-être y avoir un peu plus de bateaux, mais ça va prendre du temps avant qu'on revienne à des circonstances normales. Et d'autre part, vous l'avez déjà mentionné, la trêve, c'est la durée là, est limitée à la trêve. On ne sait pas très clair si c'est la trêve entre les Américains et les Iraniens ou c'est la trêve entre Israël et le Liban, mais encore là, en principe, c'est sur une durée limitée. Donc, je pense qu'il faut, il y a beaucoup de nuances, là, il faut rester prudent avant d'annoncer là, que tout redevient la normale.
Et donc, on ne peut pas s'attendre à ce que la commercialisation, le passage de pétrole soit impacté favorablement là, à cette réouverture-là?
Il va peut-être y en avoir un petit peu plus, mais qu'on revienne, là, à un moment donné, je pense qu'on disait qu'il y avait à peu près 120 bateaux qui passaient tous les jours en temps normal. Alors, avant qu'on en arrive à ce stade-là, je pense que ça va prendre encore du temps. Et Trump a déjà dit, lui, que le blocus américain allait se maintenir tant qu'il n'y aurait pas là, un deal, comme il dit, avec les Iraniens. On prévoit qu'il y aurait des négociations, là, je pense, ce week-end, encore des négociations directes entre les Américains et les Iraniens. Bon, peut-être que ça va faire avancer le dossier, mais bon, ça va prendre encore un certain temps là, avant que le trafic redevienne normal.
Du côté du détroit d'Ormuz, excellente question de Martin par texto, 418-971-1021. On parlait de mines qui étaient dans l'eau, justement, pour empêcher les bateaux de passer. J'imagine que le corridor privilégié doit être déminé.
Ben, je présume qu'effectivement, c'est pour ça que les Iraniens demandent que les bateaux longent leurs côtes. C'est pas très clair non plus le nombre de mines qui ont été. Bon, première des choses, est-ce qu'il y en a eu? Ça reste à confirmer parce que là aussi, il y avait un flou, là. Et s'il y en a, ben, on ne connaît pas le nombre. Mais je présume que les Iraniens, là, eux savent où sont les mines. Et donc, c'est pour ça qu'ils voudraient que les bateaux suivent la côte iranienne pour les protéger.
Comment vous voyez la confiance qu'on peut octroyer à ces décisions-là par rapport aux gens qui les prennent?
Ben, écoutez, moi, je pense que il y a du mouvement et c'est un moyen, ça, c'est une annonce qui indique que les Iraniens semblent disposés à faire des concessions. Il y a sûrement plein de tractations actuellement qui se passent à travers entre Américains et Iraniens par l'entremise des Pakistanais. Il y avait le ministre de la Défense pakistanais qui était à Téhéran il y a quelques jours. Alors, il y a clairement des négociations qui se déroulent actuellement et effectivement, peut-être qu'il y aura une surprise et qu'il y aura un deal pour comme Trump aime bien le mot que Trump aime bien utiliser et que là on va revenir à une situation avant la guerre. Mais bon, on n'en est pas là encore.
Monsieur Larochelle, je parlais d'entrée de jeu et pour rappel, on parle avec François Larochelle, ex-diplomate au Liban pour le gouvernement canadien. Je parlais d'entrée de jeu d'Israël. Est-ce que les États-Unis sont capables de contrôler Israël ou eux vont continuer dans leur objectif de complètement anéantir le Hezbollah au Liban?
Écoutez, je pense que Trump fait des pressions sur Netanyahou. Et Netanyahou n'a pas tellement le choix actuellement que d'acquiescer aux pressions américaines.
Oups, on a perdu malheureusement M. Larochelle, donc petit pépin technique malheureusement, qui est arrivé. Alors, M. Larochelle mentionnait justement que Israël normalement, devrait là, être dans l'obligation là, d'obtempérer aux signaux de Donald Trump pour justement permettre une paix durable là-bas. Ben, au moins le temps de négocier un accord avec l'Iran. Donald Trump qui a mentionné dans les médias américains sur Truth Social qu'il aimerait se rendre directement au Pakistan pour négocier. Donc, ce sera un dossier à suivre. On a pour justement suivre ce dossier, on va avoir au bout du fil Simon Bourassa, conseiller en communication au CAA Québec. On va se poser deux questions avec Simon. La première, est-ce que ça va impacter immédiatement le prix de l'essence, Pascal? Et la deuxième, c'est le gros dossier de la semaine qui a commencé en fin de semaine dans les journaux de Québécois, les routes. Ouais. L'état désuet de nos routes. Et là, cette idée de créer des routes à péage.
Ben oui, la question est là. Puis, tu sais, pour donner un exemple, hier, on avait notre soirée cabane à sucre.
Ouais.
Il y a un de nos collègues qui avait à prendre le pont de Québec par la suite. Prend le pont de Québec, flat, se range sur le côté, ils étaient 8. 8 tellement le nid de poule était profond.
Aïe, aïe,
en même
aïe,
temps, dans la séquence.
Sur le pont de Québec.
Un peu après le pont de Québec, après l'avoir terminé pour tourner vers Saint-Nicolas, 8 voitures rangé sur le côté, en même temps dont une qui a eu un flat avant et arrière. Tu sais, t'as pas vraiment de ressources par la suite. Oui, tu peux contacter tes assurances, mais tu peux pas rien faire avec le MTQ, tu peux rien faire avec tout ce qui se passe sur nos routes, la façon dont ça a été conçu et qu'il y a eu un gros nid de poule comme ça laissé pour compte. 8 véhicules, et là, on parle d'un espace de 30 minutes, là.
Aïe, aïe, c'est incroyable ce qui est arrivé hier. Simon Bourassa, est-ce que tu viens d'entendre ça, toi, comme conseiller aux communications au CA Québec?
Oui, c'est malheureux. En fait, c'est pas malheureusement surprenant, là, des nids de poules.